VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 13h à Ouagadougou, 15h à Bujumbura. Bienvenue à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité en ce lundi 25 mai 2015. Direction le Burundi. Une personne a été tuée et deux blessés par des tirs de la police ce lundi dans la province de Bururi, dans le sud du pays, lors d'une manifestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. C'est ce que rapporte l'AFP, se basant sur des sources concordantes. Une centaine de manifestants anti-troisième mandat ont bloqué la route à Muyangé, dans la commune de Mugamba, à 60 km au sud-est de Bujumbura. La police est intervenue, a tiré et fait un tué et deux blessés parmi les manifestants, d'après un témoin et une source administrative locale. Des manifestations hostiles au pouvoir ont également été signalées à Matana, un peu plus au sud dans la même province. Des manifestations reprises après un week-end de trêve, endeuillé par l'assassinat de Zedi Ferouzi, l'une des figures du mouvement anti-troisième mandat, meurtre condamné par l'ONU. Timothée de Normaille.
Les leaders du mouvement anti-troisième mandat ont fait part de leur décision hier à la faveur des funérailles de l'opposant Zedi Ferouzi, assassiné samedi à Bujumbura, en même temps qu'un de ses gardes de corps par des individus qui ont ensuite pris la fuite. Des milliers de personnes ont accompagné le corps de Ferouzi à travers la capitale burundaise jusqu'au cimetière musulman. Le plus urgent est de faire cesser les tueries et les assassinats organisés des leaders de l'opposition, a déclaré l'opposant Frédéric Bamvugi Nyumvira. Le porte-parole d'un autre parti d'opposition a dit de son côté qu'il ne peut pas garantir que les manifestants anti-gouvernementaux demeureront calmes. C'est un revers pour le dialogue amorcé au Burundi sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU, Saïd Djinit.
Au Burkina Faso, l'exhumation du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 lors d'un coup d'État a eu lieu ce matin à Ouagadougou en présence des familles et de leurs avocats. Claire Morin-Gibourg a joint Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara.
Depuis ce matin, effectivement, la procédure donc d'exhumation est en cours. C'est une exhumation placée sous le sceau de la justice, donc la confidentialité judiciaire. Et nous avons là les différents experts nationaux et internationaux qui sont là. Nous avons également la police scientifique. Et nous avons donc les familles, les représentants des différentes familles et les avocats des différentes familles qui sont présents aussi. Le grand public, lui, est maintenu hors du cimetière, un peu loin donc des travaux.
Qu'attendez-vous de cette exhumation, maître?
C'est d'abord de pouvoir identifier exactement les restes des différentes personnes qui se trouvent dans le temps, parce qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'exhumation seulement de la tombe de Thomas Sankara, mais il s'agit de l'exhumation de tous les autres compagnons qui étaient. Et ensuite, l'exhumation devrait pouvoir permettre aux juges d'instruction d'avoir des éléments scientifiques sur les causes de la mort. Parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait donc un médecin militaire qui avait donc fait les certificats médicaux, les certificats de décès, attestant que Thomas Sankara, par exemple, était mort de mort naturelle. Mais nous attendons que les résultats de cette expertise puissent non seulement permettre de l'identifier, mais également pouvoir nous dire quelle était la cause probable de la mort.
C'était Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara. En Guinée, le virus Ebola continue à faire des victimes, notamment à Doubrika, à 50 km de la capitale. Mais la tendance générale est à la baisse. Depuis Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
La campagne de recherche active doit se poursuivre jusqu'au mois de juin, mais elle semble faire des effets car le nombre de personnes contaminées a baissé, confie le coordinateur national de lutte contre Ebola. Pour le docteur Sakoba Keïta, seules quelques localités de la zone côtière restent des cibles dans la lutte contre la maladie.
En Guinée, actuellement, la situation épidémiologique a tendance vers la baisse. Malheureusement, on a eu deux cas positifs dans la préfecture de Doubrika. Nous sommes en train de rassembler tous nos moyens à Doubrika et à Boké, où nous avons de nouveaux foyers.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso poursuit ses consultations avec la classe politique et la société civile pour une possible modification de la constitution qui ouvrirait la voie à un autre mandat. Il est déjà rejeté par l'opposition et même certaines formations de la majorité. Le point avec le journaliste Maurice Lemaire.
Pour le moment, les consultations se poursuivent, vaille que vaille, comme les gens attendaient justement. Mais bon, Il y a quand même un bémol, c'est le fait que l'opposition, appelée ici radicale, a refusé de participer à ces consultations. Du coup, on se chemine vers une décision présidentielle qui consiste à dire que, comme l'opposition ne s'entend pas, l'opposition a refusé et qu'il y a une partie de la classe politique qui a accepté de venir me rencontrer. Et comme il y a le non, donc il faut qu'on se chemine vers le référendum. Je me replie vers le peuple pour demander tout ce qu'ils veulent.
Tout porte à croire que c'est en ce moment que vont commencer les problèmes qui peuvent
engager une épreuve de force entre le pouvoir et l'opposition du Congo. Pour beaucoup d'observateurs, ils pensent à une mascarade et ils disent « oui, les consultations seraient bienvenues, oui, ils ont entendu ça depuis longtemps, c'est arrivé, oui, il faut que la classe politique parle entre elles, mais ils ne s'attendent pas à vraiment de bons résultats qui peuvent satisfaire tout le monde ici. »
Notre confrère Maurice Lemaire, joint à Brazzaville, des propos recueillis par Timothée de Longmaille.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans l'actualité africaine également, au Soudan du Sud, les rebelles menacent de s'emparer des derniers champs de pétrole encore en activité, ce qui serait pour eux une victoire majeure et probablement le coup de grâce pour une économie agonisante, entièrement dépendante de l'or, rapporte l'AFP. Les forces rebelles et l'armée gouvernementale s'affrontent depuis un an et demi sur plusieurs fronts le long du Nil Blanc, aux confins des États d'Unité, du Jonglé et du Haut-Nil dans le nord du pays. Cette guerre a éclaté en décembre 2013 lorsque le président sud-soudanais Salva Kiir avait accusé l'ex-président, vice-président devenu chef rebelle Riek Machar de fomenter un coup d'État. L'ONU de son côté se dit profondément inquiète pour les populations civiles au moment où l'aide humanitaire n'arrive plus à être déployée, comme l'affirme l'ONG Médecins Sans Frontières. Claire Morin-Gibourg a joint une responsable à des affaires humanitaires pour MSF, Lucie Le Carpentier.
On a vu arriver plus de 14 000 personnes au cours des dernières semaines, principalement des femmes et des enfants qui fuyaient les combats et la violence. On a vu arriver des familles, des femmes, des enfants épuisés après avoir dû se cacher pendant des jours dans les marécages pour échapper au combat. On est particulièrement inquiet aussi, notamment du sort des centaines de milliers de déplacés qui n'ont aucun accès à l'aide humanitaire et médicale.
Des conditions qui sont également très difficiles pour votre personnel et notamment particulièrement dangereuses.
Effectivement, ce sont des conditions difficiles. Donc notre personnel local de l'air, durant le week-end passé, a dû s'enfuir dans les marécages avec certains des patients que MSF traitait au moment même. On est en contact avec eux. On sait qu'ils se sont réfugiés dans les marécages pour échapper à la violence. On est inquiet pour leur sort. Mais aussi pour le sort des centaines de milliers déplacés. Les conditions de travail pour MSF sont également difficiles dans les sites de protection des civils de l'ONU, puisque ces sites n'ont pas été épargnés par l'avalanche. Parfois, il y a eu des combats très, très, très proches de ces sites et nos équipes ont dû se réfugier pendant plusieurs heures dans des abris, alors même qu'il y avait des tirs d'obus et des échanges de tirs à proximité.
Est-ce que cela veut dire que vous pourriez être obligé d'évacuer si la situation devenait trop dangereuse ?
Nous avons déjà dû quitter l'air il y a 2 semaines. Suite à ça, le personnel local s'occupait des patients de MSF, mais ils ont dû fuir à leur tour. Donc il n'y a plus de service de santé pour la population de l'air. On parle de plus de 210 personnes. Évidemment, on appelle l'ensemble des parties au conflit de respecter le personnel humanitaire et médical, à respecter les infrastructures de santé, les hôpitaux.
Lucie Le Carpentier de Médecins Sans Frontières qui intervenait de Jouba. En Tunisie, un caporal a tué aujourd'hui 7 militaires avant d'être lui-même abattu dans une caserne de Tunis. Information du ministère de la Défense qui précise que l'auteur avait été récemment privé de port d'armes en raison de problèmes psychologiques. 10 militaires ont été blessés, un étant dans un état grave, signale l'AFP. Le retour de la paix au Yémen apparaît plus incertain que jamais avec le report par l'ONU d'une conférence qui devait réunir en fin de semaine à Genève les parties du conflit. La lutte contre le groupe État islamique en Syrie, au moins 15 raids de l'aviation gouvernementale syrienne aujourd'hui contre les djihadistes de l'État islamique qui occupent la ville de Palmyre depuis la semaine dernière. Et puis également dans l'actualité en Afghanistan, au moins 5 morts et plus de 60 blessés aujourd'hui quand un kamikaze a sauté un véhicule bourré d'explosifs à l'entrée d'un bâtiment gouvernemental à Zaboul, une ville du sud du pays. Et puis évidemment pour terminer, nous allons vous parler du Memorial Day parce que c'est aujourd'hui ici aux États-Unis, la journée du souvenir férié et chômé qui honore la mémoire des soldats tués au combat. Voilà pour ce journal. Jacques Aristide à Washington. Rendez-vous dans 50 minutes. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.